Vous êtes à l'écoute de l'émission Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal.
Le Seigneur même, on est suprême. Le Seigneur même, il est amour. Sur la vie de toujours, le Seigneur même. Le Seigneur même, il est amour.
Chers auditeurs, bonjour. Monsieur Opsich, prédicateur à Dijon, à qui je laisse maintenant la parole. À travers les siècles, les dangers qui menacent l'Église n'ont dans le fond jamais varié. Il y a un danger constant et que Jésus appelle les soucis du siècle dans la parabole du semeur. Aujourd'hui, dans notre société européenne, les dangers qui menacent l'Église ressemblent à s'y méprendre. À ceux que dut affronter l'Église au premier siècle de son existence. Le prince de ce monde, Satan, s'efforce depuis la venue du Messie sur cette terre de réduire le royaume de Dieu à une simple affaire humaine, une affaire temporelle. Ainsi, l'Église est devenue, au IIIe et au IVe siècle après Jésus-Christ, une affaire temporelle et même politique, jusqu'au moment où l'empereur romain s'est déclaré le souverain père des gentils. Les puissants évêques de Constantinople, d'Alexandrie et de Rome vivaient comme des rois. Ils voulaient avoir l'apparence et toute l'autorité. Et par l'intrigue, par la force, par la persécution parfois, ils réussirent à asservir des millions de chrétiens. En ouvrant leurs bras aux empereurs et aux rois, en leur accordant titres et privilèges ecclésiastiques, ces pasteurs devinrent les véritables dirigeants de ce monde. Dans une démocratie, la menace d'une sécularisation de l'Église est moins évidente. Mais pourtant, elle n'en est pas moins présente. Par tous les moyens, le monde s'efforcera toujours de diminuer l'impact du véritable christianisme. Dès les premiers siècles du christianisme, certains y réussirent par l'exercice d'un pouvoir coercitif émanant de l'empereur ou du gouvernement romain. Les dirigeants et les penseurs religieux de l'Europe actuelle y réussissent en affichant ouvertement leur mépris ou leur indifférence à l'égard des questions spirituelles. Certains veulent y réussir en contraignant les chrétiens à s'engager politiquement ou socialement. Dans tous les cas, l'objectif consiste à ôter au christianisme ce qui en fait la valeur spirituelle. La puissance dirigeante de l'Église de Rome a fort à faire pour conserver toute son influence. Il se crée aujourd'hui en son sein une certaine opposition, car semble-t-il, elle est allée trop loin dans la sécularisation. Elle est maintenant contrainte de faire marche arrière si elle veut survivre. Et c'est là un avertissement pour nous. Les chrétiens doivent non pas s'engager, mais se dégager de l'étreinte étouffante de ces puissances séculières. Et pour ce faire, nous devons nous fortifier dans la conviction du caractère unique du message chrétien et de l'Église. Il existe aujourd'hui deux théories sur la religion qui sont presque devenues un axiome pour la plupart des gens. La première, c'est que l'homme d'aujourd'hui peut se dispenser de la religion. La seconde, c'est que les chrétiens n'ont pas besoin de l'Église avec ses doctrines, son organisation et même sa discipline. Malheureusement, ce sont bien souvent des chrétiens qui nourrissent de telles pensées. Il est pourtant facile de démontrer que ces deux théories contredisent la réalité. Les philosophies modernes ne réussissent pas, malgré tous les efforts qu'elles font dans ce sens, à faire de l'homme un être arreligieux. Certains théologiens, malgré la gigantesque entreprise de démystification de la foi dont ils se sont chargés, n'ont point réussi à vaincre l'aspiration humaine vers le divin. Toutes ces voies humaines seront un jour éteintes. Et l'Évangile continuera à révolutionner des âmes, des familles et même des sociétés entières. L'Écriture nous dit que l'Éternel a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Les hommes perdent leur temps lorsqu'ils s'évertuent à n'en pas tenir compte. L'homme a encore besoin de croire et d'espérer. Il a encore le besoin impérieux et primordial de connaître le sens de son existence. Marx s'est trompé. La religion n'est pas un opium pour le peuple, elle constitue une réponse. Une réponse à la question fondamentale que chacun se pose. Pourquoi suis-je sur cette terre? Le peuple s'interroge tout au fond de lui-même, car il ne s'est pas encore infatué de la culture, de la philosophie ou de la théologie, qui constitue bien souvent l'opium des gens instruits. Soyons-en convaincus, la religion est le premier besoin de l'homme. C'est lorsqu'on donne un sens à leur existence, une dignité spirituelle à l'image de l'Éternel, que les hommes sont aptes à changer de comportement, que les sociétés peuvent être transformées. Soyons-en convaincus, ce sens à l'existence se trouve uniquement dans la parole de Dieu. Ainsi que Pierre le dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » D'autre part, Dieu ne s'est pas trompé sur la nature de l'homme lorsqu'il a institué l'Église, lorsqu'il a communiqué des doctrines sur sa vie, sur son organisation et sa mission. Il a été amplement démontré que tout organisme a besoin d'une structure et d'une discipline. On peut, à cet effet, consulter l'excellent ouvrage de Milton Linger, « L'étude scientifique de la religion ». L'organisme religieux, plus que tout autre, a un besoin impérieux de direction, d'organisation, de discipline. Bien entendu, la structure n'est pas une fin en soi, mais elle demeure indispensable à l'organisme qui veut atteindre des objectifs précis. Les recherches d'Edwin Gostad aux États-Unis démontrent que les organisations religieuses, s'avérant les plus solides et les plus efficaces dans l'accomplissement de leur mission, sont celles qui exigent beaucoup de leurs membres. L'étude de Gostad porte également sur des travaux effectués en Europe. Au temps des apôtres, l'Église était profondément imprégnée de la doctrine du Christ. Elle était disciplinée, elle était organisée. Il doit en être de même aujourd'hui. Il s'agit là d'une question vitale pour l'Église. Par exemple, il ne paraît pas bien grave à première vue d'encourager des gens qui ne sont pas convertis ou qui ne sont pas fidèles au Seigneur à croire qu'ils font partie intégrante de l'Église, à les engager dans certaines activités de l'Assemblée. Oui, l'Église doit demeurer unique, non seulement sur le plan théorique, mais encore sur le plan pratique. Dean Kelley, dans son ouvrage « Pourquoi les Églises conservatrices grandissent-elles » démontre que l'exclusivisme est un des caractères essentiels de l'Église néo-testamentaire, et que c'est cette distinction, contrairement aux idées reçues, qui garantit la force, le succès et l'expansion du véritable christianisme. Notons-le bien, l'Église bâtie par Jésus-Christ est un organisme de nature exclusif. N'importe qui n'y est pas admis. On ne peut pas y enseigner n'importe quoi. On ne peut pas y agir n'importe comment. Lorsqu'elle devient inclusive, large, ouverte, et jusqu'à un certain point tolérante, l'Église prend le chemin de la destruction, tant sur le niveau théorique que pratique. Elle devient notamment inclusive lorsqu'elle perd de vue ses véritables objectifs et qu'elle s'engage dans des activités qui ne sont pas de son ressort. L'Église n'est ni une œuvre de bienfaisance, ni un club social, ni une agence de voyage, ni un syndicat. Elle ne doit pas entrer en compétition avec le monde, car les deux ne se situent pas sur le même plan. Elle ne doit jamais oublier cette distinction. C'est à cette condition que l'Église pourra grandir, que ce soit en spiritualité ou en nombre. Dieu ne nous demande pas d'être ouvert ou tolérant. Il veut la fidélité, ce qui implique une discipline personnelle, à la fois dans l'Église et dans le monde. Dieu veut non seulement des gens bibliquement baptisés, mais encore des gens repentis et qui grandissent sans cesse dans leur foi. Chez les chrétiens, la sanctification n'est pas un à côté dont on parlerait du bout des lèvres. C'est une nécessité imposée à chaque disciple de Jésus-Christ. C'est le résultat d'un enseignement précis qui touche à la vie entière de chaque chrétien. C'est la conséquence d'un effort quotidien contre Satan. L'Église doit avoir pour but d'amener ses membres à une vie entièrement consacrée au Seigneur dans l'espérance de son retour. Jésus nous exhorte à rechercher la perfection, rien de moins. Il dit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Matthieu 5, verset 48. Ainsi, l'apôtre Paul nous exhorte à propos de nos paroles, en disant qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 29 et 30. Cette nécessité n'est pas imposée au seul prédicateur, car Paul dit à tous les chrétiens, « Soyez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. » Le corps de Christ n'est pas dirigé par ses membres. C'est un royaume. Le Seigneur est son roi. Sa parole est sa loi. Sa justice est notre droit. Séparons-nous du monde afin que Dieu nous accueille. Ainsi que l'apôtre Paul le dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en réalisant la sainteté dans la crainte de Dieu.
Vous venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie, gratuitement s'entend, car nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, même heure.
Le Seigneur m'aime.